Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par vous, mon cher David Doucan. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Michel Platini aura passé 15 heures en garde à vue. Les policiers enquêtent sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Récits et explications dès le début de ce journal. La réforme de l'assurance chômage, dégressivité pour les cadres, durcissement des conditions d'accès aux droits, voilà pour les salariés. Et les entreprises alors, le système de bonus-malus anti-contrat court est-il réellement dissuasif? La réponse dans un instant. Et puis il y avait de l'ambiance cette nuit à Orlando en Floride. Le président Donald Trump a lancé la campagne pour sa réélection en 2020. Vous l'entendrez dans cette édition.
Et juste après le journal, l'analyse de Vincent Herouet sur le coup d'envoi de la campagne de Donald Trump. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Marat y reçoit Louis Alliot, député Rassemblement National et candidat aux élections municipales à Perpignan.
Europe 1. Ça fait mal quoi, hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. Mais bon après... Ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions. Voilà.
Michel Platini, manifestement affecté, il vient de passer 15 heures en garde à vue au moment de cette déclaration, en pleine nuit, à Nanterre, devant l'office anticorruption. Il est ressorti libre, mais les enquêteurs se penchent sur l'attribution de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Les soupçons planent notamment sur un déjeuner secret à l'Elysée en 2010, en présence de Nicolas Sarkozy, quelques jours avant le vote. Le récit de la garde à vue et les explications de Pierre de Cossette.
Des dizaines de questions soigneusement préparées. Au 9e étage de la PJ, dans les bureaux de l'Office anticorruption, trois invités de marque, tous entendus séparément, quand en fin de journée, les enquêteurs les réunissent dans le même bureau. Confrontation, il y a la Claude Guéant, Sophie Dion, ex-conseillère sport du président Sarkozy, et donc Michel Platini. Que s'est-il passé durant ce déjeuner de novembre 2010 en présence du chef de l'État et du prince héritier du Qatar? Est-ce à ce moment que le vent a tourné, alors que la voix de Platini semblait promise aux États-Unis? Les intéressés à ne rien savoir d'un possible pacte de corruption, d'un deal entre Paris et Doha avec au centre des tractations la chaîne beIN Sport ou le PSG. Et à 1h du matin, voilà comment William Bourdon, l'avocat de Michel Platini, résume la situation.
Beaucoup, beaucoup de bruit pour rien. Nous ne considérons en aucune façon que Michel Platini puisse être considéré comme suspect de quoi que ce soit, pas plus hier qu'aujourd'hui, que demain. C'est donc pour nous une affaire terminé.
Pour l'heure donc, le parquet financier ne poursuit pas Michel Platini, mais attention à ne pas crier victoire, rien n'empêche le PNF, tôt ou tard, de demander la reprise de sa garde à vue.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 avec Jihan Bergaoui.
Les critiques pleuvent depuis hier sur le gouvernement en cause, la réforme de l'assurance chômage.
Oui, les syndicats la jugent unanimement injuste. Le patronat s'émeut du système de bonus-malus anti-contrat court. Mais qui sont réellement les gagnants et les perdants? Le gouvernement met à contribution les entreprises et les chômeurs, mais pas dans les mêmes proportions. Olivier Samin.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines du bonus-malus qui allait être mis en place pour sanctionner financièrement les entreprises qui abusent des contrats courts. Il est bien là. Et la critique du patronat est tout sauf une surprise. Mais ce qui apparaît clairement ce matin, c'est que l'essentiel de l'effort demandé par le gouvernement va peser sur les chômeurs. Qu'il s'agisse du durcissement des conditions requises pour pouvoir être indemnisé, il faudra maintenant avoir travaillé au moins 6 mois dans les 24 derniers mois. Qu'il s'agisse des règles moins favorables pour les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, ils devront attendre plus longtemps avant de pouvoir recharger des droits. Qu'il s'agisse du changement du mode de calcul des indemnités chômage, qu'il s'agisse aussi de la dégressivité des allocations chômage pour les cadres qui, avant de perdre leur emploi, gagnaient plus de 4500 euros bruts par mois. Toutes ces mesures permettront d'économiser 3,4 milliards d'euros sur 3 ans. La seule mesure favorable aux chômeurs, c'est le renforcement de leur accompagnement grâce à l'arrêt des réductions d'effectifs à Pôle emploi et même l'embauche de 1000 nouveaux conseillers.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Une information politique en bref, Bruno Retailleau ne sera pas candidat à la présidence des Républicains. Le patron des sénateurs LR l'annonce dans les colonnes du magazine Le Point. Il ne veut pas, dit-il, générer une nouvelle guerre des chefs. La voie est donc libre pour Christian Jacob.
Le procès Balkany touche à sa fin.
Oui, et c'est au tour de la défense de s'exprimer. Maître Éric Dupond-Moretti plaidera contre ce qu'il appelle une justice sur le mur de l'exemple. Tout l'enjeu pour l'avocat de Patrick Balkany sera de démontrer le caractère excessif de la réquisition du parquet la semaine dernière. Le procureur demande 7 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et corruption passive. Salomé Legrand.
Tout au long du réquisitoire, il a grommelé à intervalles réguliers derrière son client qui faisait de grands noms de la tête. Éric Dupond-Moretti, deuxième vedette de ce procès-spectacle suivi par un public chaque jour plus serré sur les bancs, va donc investir le prétoire tout à l'heure pour son monologue final. Si Balkany a reconnu la fraude fiscale, il réfute tout blanchiment, toute corruption. « Je n'ai dépensé que de l'argent familial », martèle depuis le début le maire de Levallois, dont l'avocat va réclamer qu'il ne soit pas cloué au pilori de l'exemplarité. Une plaidoirie périlleuse pour ce ténor, certes surnommé acquittateur, mais qui, au long des 4 semaines d'audience, n'a fait que peu d'interventions sur le fond du dossier. Hier, ses confrères ont techniquement tenté de démonter l'existence d'un quelconque pacte de corruption autour des tours de Levallois, mais ils ont au passage miné la défense de Balkany sur la réelle propriété du riad marocain. Maître Dupond-Moretti qui va en outre devoir trouver une parade à l'arrogance affichée à longueur d'audience par son client.
Salomé Legrand, du service police-justice d'Europe 1. Le Monde a battu un triste record en 2018. Plus de 70 millions de personnes ont dû quitter leur foyer en raison des guerres ou des persécutions. 2 millions de plus qu'en 2017. C'est la conclusion du rapport annuel du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Peut-être avez-vous vu ces images impressionnantes. La chancelière allemande, prise de tremblements pendant de longues minutes, Angela Merkel assistait à une cérémonie officielle à Berlin. Il faisait 30 degrés. Naturellement, cette scène a généré beaucoup d'inquiétudes. La dirigeante a expliqué par la suite qu'elle avait souffert de déshydratation et qu'après avoir bu de l'eau, elle allait beaucoup mieux.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, Orlando en Floride, meeting géant, Donald Trump en campagne pour 2020. Vous l'entendrez, à tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Nico Sadiagas.
La suite du journal avec David Doucan. Un an et demi avant l'élection, Donald Trump est déjà candidat pour un deuxième mandat.
Oui, il l'a annoncé cette nuit à Orlando, en Floride, dans un stade surchauffé devant une foule enthousiaste. Écoutez, le désormais candidat à sa propre succession.
Je me présente devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis. On l'a déjà fait une fois, on va le refaire. Et cette fois, ça devrait être plus facile parce que nous avons déjà tellement fait de choses. Nous commençons notre campagne avec les meilleurs résultats, le meilleur programme et la seule vision positive pour le futur du pays. Un vote pour un démocrate en 2020 est un vote pour le socialisme radical et la destruction du rêve américain.
Extrait choisi par notre correspondant aux États-Unis et envoyé spécial en Floride, Xavier Yvon. Et j'ajoute que Donald Trump a violemment attaqué ses adversaires démocrates qu'il a accusés d'être, je cite, « guidé par la haine ».
Et dans un instant, l'analyse de Vincent Herouet pour qui Trump a toutes ses chances en tant que professionnel du spectacle dans la société de la politique spectacle.
D'Orlando en Floride, à Marseille, en Provence, je vous fais voyager. Tout un quartier de la cité phocéenne est actuellement contraint d'utiliser des groupes électrogènes pour avoir du courant. C'est l'île du Frioul, à 20 minutes de bateau, qui dépend du 7e arrondissement. Figurez-vous que les deux câbles sous-marins qui assurent l'alimentation ont rendu l'âme. Les riverains et les commerçants de cette île perdent patience. Nathalie Chevance.
Depuis plus d'un mois, le Champ des Gabians est concurrencé par le ronron des groupes électrogènes. Seule solution pour alimenter les 350 clients du Frioul, dont Stéphane, restaurateur, qui travaille au gré des coupures de courant.
Une histoire de fada. On va sur la Lune, on va sur l'espace et on n'arrive pas à fournir l'électricité d'un quartier de Marseille. On se marche sur la tête. Pas de courant, tout qui s'éteint, rallumer des bougies. On perd du temps, on s'énerve facilement parce qu'on n'a plus du tout la même technologie de caisse enregistreuse, d'imprimante, qu'on retravaille à l'ancienne. Oui, le Moyen-Âge.
Colère aussi de Roger, insulaire, car le principal groupe électrogène consomme sous ses fenêtres 1200 litres de gazole par jour, tout cela au beau milieu du parc des Calanques.
Il faut voir ce qui crache, hein, parce que quand même un groupe comme ça qui a plus de 1000 chevaux, point de vue pollution, ça en envoie dans l'air, ça, hein, costaud. Le bruit, c'est pas très sérieux.
Car les problèmes d'électricité durent tout de même depuis un an, situation compliquée, reconnaît Frédéric Béringuier de chez Enedis.
Aujourd'hui, dans l'urgence, nous avons mis des groupes électrogènes, c'est une nécessité. Alors oui, ça tourne gazole, c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d'installer un câble provisoire dès cet été.
Encore du provisoire, pestent les insulaires avec ce sentiment d'abandon. Au Frioul, Nathalie Chevance, Europe 1.
Cinéma avec le retour de Jean Dujardin.
Oui, il est à l'affiche du Dain, le nouveau film de Quentin Dupieux, un univers loufoque. La critique de notre spécialiste cinéma, Mathieu Charrier.
Georges a 44 ans, il vient de tout plaquer et il a désormais une seule passion.
Vous parlez de mon blouson ?
Pourquoi on parlerait de ton blouson ?
Je vois, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
son blouson, en din, acheté cash avec ses économies. Il va devenir comme une seconde peau, prendre possession de lui en quelque sorte, et Georges va en avoir plus qu'une idée en tête, faire disparaître tous les autres blousons de la surface de la Terre, en tuant au passage leur propriétaire. Évidemment, on est dans l'humour absurde et l'univers un peu barré de Quentin Dupieux. C'est ce qui a séduit Jean Dujardin, qui joue Georges.
Il y a un espèce de gros fantasme, parfois assez réservé aux hommes, l'envie de tout plaquer, et pourquoi pas d'aller s'acheter un blouson en din et de s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, si tu veux avoir ce blouson minable et te prendre pour un caïd, t'as le droit. Si tu veux qu'il ait un super pouvoir, t'as le droit. On est dans une espèce de régression, mais pas enfantine, une régression plutôt animale.
Une régression qui en tout cas amuse et surprend le spectateur. Loin des codes habituels du cinéma, 1h17 de défouloir et de plaisir. Jean Dujardin, lui, va bientôt commencer le tournage du nouvel OSS 117 qui devrait se dérouler sous l'ère Giscard d'Estaing sur fond d'affaires des diamants de Bocassa.
Les bonnes infos de Mathieu Charrier du service culture de
Vous aimez ma veste en din?
Oui, j'aime beaucoup. Non, vous avez une chemise en jean qui est effectivement osée. C'est osé. Vous le saviez, vous, que le prochain OSS se déroulerait sous Giscard? Sur fond de l'affaire, vous le saviez?
Je le savais parce que j'en avais parlé, pardonnez-moi, avec l'intéressé.
C'est votre dada, ouais.
Oh là là.
La Coupe du Monde de football, Nikos?
Évidemment.
Je vous donne des nouvelles de nos Françaises. Les Bleus sont arrivés hier au Havre, où elles disputeront dimanche leur 8e de finale. On ne connaît pas encore leur adversaire, mais il y a toujours cette ferveur. Des centaines de fans ont assisté à leur entraînement. Et puis, sachez par ailleurs que les Brésiliennes se sont qualifiées en battant l'Italie 1-0. L'Italie qui ira également en 8e de finale.
Allez les Bleus, allez David Doucan, à demain, 8h sur Europe 1.